que je vais vous dire ce matin, si ce sont que des paroles, ce sera simplement une cymbale retentissante. Mais je prie le Saint-Esprit qui est en vous, de pouvoir vous révéler le message de ce matin. J'ai écouté un orateur par rapport à ce message, et wow, c'était décapant. J'ai dit, moi, je ne veux pas agir comme lui. C'est trop décapant. Mais, quelque part, ça fait du bien. Quelque part, ça nous bouscule. Ça nous bouge. Ça nous fait sortir de nos gonds. Et ça fait du bien, des fois. Un peu de décapage. Il y a un mois de cela, et Rémi m'a posé la question, est-ce que tu serais capable de vous donner un message ? Je dis capable, non. Mais je veux bien essayer. Et le lendemain matin, quand je suis monté pour prendre un petit temps de prière, de suite, j'étais poussé à regarder les livres. Et le Seigneur m'a montré ce livre, À l'école de la grâce, de Jerry Bridge. Ce livre, j'en ai déjà partagé une fois pendant les animations bibliques, mais c'est aussi un livre qui a été conseillé par Dominique Angers, qui est professeur en théologie à la faculté de Montréal, et auquel j'ai beaucoup étudié aussi Éphésiens avec lui. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est peut-être intéressant d'acheter ce livre, et combien il est intéressant. Donc, je vous invite à l'acheter si vous voulez, ou alors, moi-même, je peux vous le prêter. Alors, à celui qui soit intéressé, à vous la liberté. Alors, comment un insecte rampant peut-il changer en un insecte volant ? Comment une créature plutôt laide peut-elle se voir transformée en une magnifique et fascinante créature aux ailes colorées ? Comment un insecte destructeur qui peut littéralement dépouiller un arbre de ses feuilles, en tout cas lorsqu'il y a une colonie, la fois dernière je suis allé à mon jardin et j'ai vu au moins une cinquantaine de ces insectes sur un chou. Waouh, c'était énorme. Et toutes les feuilles, elles étaient dévorées. Plus de feuilles. Peut-il devenir une créature si délicate qu'elle peut se poser sur la pétale d'une fleur sans même l'abîmer ? En bref, comment une chenille peut-elle devenir papillon ? Ce processus est désigné par la métamorphose. Ce terme est employé pour décrire ce qui se produit lorsqu'une chenille tisse un solide cocon autour d'elle et en émerge quelques jours plus tard sous la forme d'un papillon. De même, dans le domaine spirituel, comment une personne indifférente et hostile à Dieu peut-elle devenir un disciple de Jésus-Christ profondément engagé ? Comment une personne esclave d'habitude pécheresse et destructrice peut-elle devenir une personne capable de se maîtriser, remplie d'amour et de compassion ? Comment un juif fanatique et suffisant du nom de Saul de Tarse a-t-il pu devenir l'humble et modeste Paul, apôtre des païens ? Ce processus, Paul appelle cela la transformation. Le verbe grec utilisé est métamorphomé. En français, métamorphose. N'est-il pas fascinant que Paul utilise le même terme que décrit la transformation d'une chenille en un papillon pour décrire la transformation spirituelle qui se produit dans la vie d'un chrétien ? Le processus est tout aussi mystérieux et les résultats d'autant plus frappants. En fait, le processus de transformation que Paul décrit très brièvement en 2 Corinthiens 3:18 est appelé sanctification. La sanctification est un processus important avec lequel nous devons nous familiariser si nous voulons rechercher la sainteté. La sainteté n'est pas pour les saints, la sainteté elle est pour nous. Sainteté, nous sommes mis à part et Dieu nous met à part, elle nous appartient. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, par laquelle notre être intérieur est progressivement modifié et libéré toujours davantage de nos traits de caractère pécheur. En vue de développement en nous, au fil du temps, des vertus d'un caractère semblable au Christ. Nous sommes appelés de jour en jour à ressembler à Christ. Cependant, bien que la sanctification soit l'œuvre du Saint-Esprit en nous, elle implique une participation sincère de notre part, ainsi qu'un usage régulier des disciplines spirituelles, qui sont les instruments de la sanctification. La sanctification débute en réalité au moment de notre conversion. Lorsque un acte appelé régénération ou nouvelle naissance, le principe de la vie spirituelle est implanté en nous. Cette œuvre est annoncée dans les prophéties de Jérémie 31-33, où Dieu dit « Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur. » Et dans Ézéchiel 36-26-27, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ainsi, celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est là. Alors, pourquoi fais-tu référence à ton ancienne vie ? Arrête. Écoute l'Esprit qui est en toi. Écoute. Hier matin, j'étais en voiture avec mon épouse. Et il y a une voiture devant nous. Elle se garde n'importe comment, sans tenir compte de la réglementation puis d'autrui. Et mon épouse, elle dit, mais regarde, ils sont occupés de... Alors, j'ai dit, écoute Sylvie, on va prier pour lui. Dis, Seigneur, bénis-le. Ouvre son intelligence, montre-lui son état égoïste. Et montre-lui aussi qu'il peut être un danger pour les autres. Et tout d'un coup, je me suis dit, waouh, c'est pas ma chair qui a régné là, c'est l'esprit. Parce que bien souvent, dans ce genre de comportement, hein, quelle attitude nous avons ? Oh, il pense qu'à lui ! On est agressif. Et là, je n'ai pas été agressif, je l'ai béni. Et nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à être démarqués par rapport au monde. Nous sommes marqués du sceau pour être la lumière. Mais si on a un comportement identique au monde, comment puisse-t-on voir qu'on est vraiment enfant de Dieu ? C'est par de telles attitudes qu'on est remarqué. Et le monde voit celui qui est différent. Celui qui n'est pas dans la peine, mais qui est dans la joie dans n'importe quelle circonstance. Celui qui n'est pas attristé. Je suis une référence pour mon voisinage, parce qu'ils ont tous connu mon fils Jean-Baptiste. À 7 ans, il est décédé. Et à 7 ans, il a fait des choses. Il a témoigné à ses voisins en disant qu'il avait un problème de santé. Il a dit, je ne serai pas guéri ici, je serai guéri là-haut. Et c'est ce qu'il a dit. C'est qu'un voisin nous a rapporté cela. On ne le savait pas. Il était déjà une référence à l'âge de 7 ans. Oui, nous sommes une référence pour ce monde. Soyez la référence de la lumière de ce que l'Esprit Saint a mis en vous. Ces actes de la nouvelle naissance est l'œuvre de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est donc entièrement une œuvre de grâce. Tout comme justification, c'est également un acte instantané. Le jour où on m'a invité aux âmes d'affaires du Pénévangile, je suis allé parce que je me suis dit, si c'est la dame auquel on avait déposé notre fils Julien, notre aîné, qui d'ailleurs a participé au parcours Alpha, Annick, elle nous avait invité aux âmes d'affaires du plein évangile, et puis j'ai dit à Sylvie, écoute, on va y aller, et si on s'aperçoit que c'est une secte, on retire l'enfant, et puis on ira voir ailleurs. Et, par grâce, les circonstances étaient de mainmise par la main de Dieu. Je fus happé par ces témoignages. J'étais timide. Je parlais très peu. Frustré. J'étais enfermé, bridé, enchaîné à cause de mon orgueil. Parce que la timidité, c'est aussi une forme d'orgueil. Et là, à la fin de ce témoignage, il y a eu un appel. Et sur ma chaise, que faire ? Quoi faire ? Si je bouge, si je vais de l'avant, mais je vais avoir l'air de quoi ? Je ne vais pas vous dire le mot auquel j'ai utilisé. Ça ne serait pas bien dans ce lieu, surtout en ce moment. Mais le Seigneur m'a lavé de cela. Et tant pis, j'y vais. Deux hommes ont prié pour moi et m'ont demandé si je voulais donner ma vie à Jésus. J'y regarde, je leur dis, mais s'il existe ? Je ne savais même pas s'il existait Jésus. J'avais fait mon catéchisme, d'accord ? Mais on disait tellement de choses, comment être convaincu que c'était vraiment lui, que c'était vraiment un fils de Dieu, qui était vraiment toute puissance ? Il y a eu beaucoup d'écrits, mais il n'y avait pas de résultat dans ma vie. Alors que quand j'étais enfant, je priais. Et à l'âge de 13 ans, j'ai quitté l'église, et après j'ai couru les filles. Ça, c'est l'aspect du monde. Et alors, il m'a dit si je voulais donner ma vie à Jésus. Moi, j'ai dit s'il existe, oui. J'ai sorti de là, j'étais transformé. Comme cette chenille, une métamorphose. J'avais de la compassion pour tout ce qui était autour de moi, de l'amour pour tout ce qui était autour de moi, tout. Aussi bien de la création que les maisons, les gens, tout. J'ai quelque chose qui s'est transformé. Le même jour, j'écoute une cassette de Jean-Paul Régimbal sur les messages subliminaux qu'il y a dans les chansons et les musiques rock'n'roll. Et sans discerner, j'ai pris tous mes disques, j'ai tout cassé, tout brisé. J'étais en train de fumer une cigarette. J'ai dit, ça aussi, ça doit disparaître. Le même jour, une transformation. C'est l'Esprit qui transforme toutes choses. Laissons-nous nous conduire par l'Esprit. Si vous avez des faiblesses, c'est simple. J'ai aussi des faiblesses. Ce que je fais, je le dis au Seigneur. Je dis, Seigneur, tu vois, tel domaine, tu ne règnes pas. Je veux que tu règnes. Je te prie, Seigneur, de me libérer de telle ou telle chose. Viens, Saint-Esprit. Et si vous êtes dans cette dynamique, Dieu vous fera grandir dans l'esprit. Dieu vous utilisera par l'esprit. Si aujourd'hui des églises n'ont plus de puissance dans l'esprit, c'est parce qu'ils ne se laissent pas conduire par l'esprit. Et moi j'aspire à tout cela. J'aspire à voir la manifestation de Dieu. J'aspire à voir sa gloire. Fais-moi voir ta face, ô Père, à travers mon frère, ma sœur. Fais-moi voir combien tu es beau, combien tu es belle en Jésus-Christ. Je veux voir Jésus en chacun de vous. J'aspire à ça. J'aspire. Je suis toujours émerveillé quand je vois Thérèse qui souffre dans son corps, mais combien elle a la joie, combien elle est rayonnante. Et j'admire l'œuvre de l'Esprit Saint dans Thérèse. J'admire l'œuvre de l'Esprit Saint en chacun de vous quand lorsque vous vous laissez conduire par l'Esprit Saint. Romains 8, à partir du verset 12. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers la nature pécheresse pour vivre selon cette nature. Car si vous vivez selon cette nature pécheresse, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Voilà notre attitude pour la sanctification. Pour voir, bien sûr, le Seigneur tient compte de nos ignorances. Il sait quand nous sommes ignorants. Mais lui nous conduit à nous sanctifier de jour en jour, en marche, en nous relevant, en nous encourageant. Mais nous, notre devoir, c'est de chercher. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau de faire, de rendre heureux notre compagne? Pour moi en tant qu'homme, qu'elle soit heureuse. L'amour, c'est ça, c'est le feu dans le couple. Le feu doit continuer à brûler. Et si ça commence à s'éteindre, n'attendez pas que ce soit tout éteint, mais alimentez ce feu par des bûches. Des bûches d'attention, des bûches d'écoute. C'est cette relation que Dieu nous demande, c'est d'aimer Dieu par-dessus tout, d'aimer Dieu en premier. D'ailleurs, mon épouse me fait quelques reproches. Arrête de penser, tu n'as jamais la tête ici. Eh oui, aimer Dieu peut-être un peu trop. Mais Dieu, c'est important aussi, mais je dois faire un équilibre entre Dieu et ce que je vis aussi avec mon épouse, parce qu'elle aussi elle a besoin d'attention. Donc c'est important. Important. De se laisser sanctifier par l'Esprit Saint. Et ça, c'est une marche de maturité. Lorsqu'on est bébé, on se nourrit de petit lait. Et au fur et à mesure qu'on grandit, il nous faut une alimentation beaucoup plus solide. On commence par prendre des petits morceaux. Et la lecture de la Bible est un bon steak auquel Dieu nous demande aussi de connaître sa parole. Est-ce que je la connais suffisamment pour me construire? Le Saint-Esprit nous révèle des choses, mais la Bible aussi a été inspirée par Dieu. On l'a vu d'ailleurs ce vendredi-ci. Et la parole de Dieu est nécessaire si je veux grandir dans l'œuvre de l'Esprit, car nous sommes appelés à marcher selon l'Esprit à l'appel de Dieu. Mais si je n'ai pas connaissance de ce qu'il veut, comment je vais pouvoir lui répondre ? Avez-vous ce désir de devenir cet adulte ? Quelle est la relation entre la sanctification et la justification ? Peut-être justifié sans être sanctifié ? La justification et la sanctification sont inséparables. Dieu ne donne jamais la justification sans la sanctification. 1 Corinthiens 1, 30. C'est pour lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Les deux s'accomplissent par la foi. La justification est un acte complet et éternel de Dieu. La sanctification est une œuvre de Dieu commencée par dans la régénération, menée tout au long de notre vie et achevée au moment de notre mort. La première est équitable et parfaite en tout. La deuxième n'est pas équitable en tout, ni parfaite, chez certains, tant qu'ils n'ont pas mis la chair de côté. Dans la justification, Dieu nous impute, c'est-à-dire crédite ou met sur notre compte, la justice de Christ. Dans la sanctification, il transmet la grâce et nous rend capables à l'exercer. J'insiste sur le fait que la recherche de la sainteté est un effort assidu de notre part, et cela dépend aussi de la puissance du Saint-Esprit. Au plus vous écouterez le Saint-Esprit, au plus il agira. Au plus vous vous abandonnez à lui, au plus le Saint-Esprit aura de la puissance. Dans Philippiens 4, 13, je puis tout grâce à celui qui me fortifie. Si Paul est parvenu, c'est grâce au Saint-Esprit qui lui a donné la force. Car n'oubliez pas Paul, il avait ses écrits. Il cherchait justement ces chrétiens, ceux qui priaient le Seigneur, pour les mettre en prison, pour les ramener à Jérusalem. Et il croyait faire bien. Il croyait le faire pour Dieu. Mais heureusement, la puissance de Jésus s'est révélée sur le chemin de Damas. Et le but de la sanctification est de nous rendre semblables au Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, 29. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères.
La ressemblance au Christ est l'objectif de Dieu pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et cela devrait être aussi notre objectif. Transformé et conforme ont une racine commune, forme, qui renvoie à l'idée de modèle ou de moule. Être transformé fait davantage référence au processus, alors que devenir conforme parle plutôt d'un produit fini. Jésus est notre modèle, il est notre moule. Et notre finition, c'est d'être à l'image du Christ. C'est pas impossible. Ne dites pas que c'est impossible. C'est pas impossible. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint en vous. Le Saint-Esprit en vous. Ce n'est pas impossible. Ce qui nous rend impossible, c'est notre chair. Mais lui doit mourir. Nous sommes transformés afin de devenir finalement conformes à lui. La sanctification est donc la conformité à la ressemblance de Jésus-Christ. Éphésiens 4, 24, Paul dit que notre être nouveau est créé conformément à la pensée de Dieu pour mener une vie juste et sainte que produit la vérité. L'apôtre Pierre cite « Soyez saints car je suis saint ». Ce n'est pas l'affaire de grands orateurs ou de ceux qui dirigent une église, c'est l'affaire de tous. Le Seigneur veut nous employer chacun dans son œuvre, que ce soit dans les petites choses ou dans les grandes. Alors comment savoir si nous sommes de plus en plus transformés à l'image du Christ ? Hébreux 1,9 dit « Tu aimes la justice, tu détestes le mal. » Jésus ne se contentait pas d'agir avec justice, il aimait la justice. Donc si tu aimes la justice et que tu détestes le mal, alors l'œuvre du Saint-Esprit est en toi. Dans son humanité, il aimait l'équité, l'impartialité, la justice et les relations honnêtes avec les autres. En même temps, il détestait le mal. Jésus détestait le péché pour ce qu'il était. La femme adultère, lorsqu'on la présenta devant Jésus, Jésus a dit que le premier qui n'a pas péché jette la première pierre. Et à bout d'un certain moment, Jésus relève la tête et plus personne autour d'elle. Et Jésus dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Nous sommes dans ce combat auquel on doit faire mourir cette chair. Si on n'y arrive pas, au secours, Saint-Esprit, viens mon aide. Il est là pour œuvrer en nous. Seigneur, moi je peux pas, mais toi tu peux. Alors viens. Et tu augmentes ce désir aussi en même temps quand tu pries, quand tu le demandes, quand tu formules. Puis après, si ce sont des puissances, si ce sont des blessures marquées par les choses du monde, Dieu guérit, Dieu libère. Confesse et Dieu fait le reste. Agis et Dieu fait le reste. Haïssons-nous vraiment le péché à cause de sa nature méprisable quand nous le voyons dans notre vie ? Le seul but de Jésus dans sa vie terrestre était d'accomplir la volonté de son Père. Nous devons lui ressembler toujours davantage Il nous faut grandir avec ce même objectif, rechercher sa volonté. Être en Jésus ne signifie pas seulement que nous devons arrêter de commettre quelques péchés flagrants comme mentir, tromper, médire ou avoir des pensées impures. Être comme Jésus signifie chercher constamment à faire la volonté du Père. Psaume 40, verset 9. Il prenait plaisir à faire la volonté du Père. Devenir comme Jésus signifie parvenir à prendre plaisir à faire la volonté de Dieu, aussi désagréable que cela nous paraître. Sur le moment, ou que ce soit le sacrifice que cela exige, simplement parce que c'est sa volonté. Jésus a dit, « Je fais toujours ce qui lui est agréable au Père. » Tout ce que Jésus faisait, il le faisait dans le but de plaire au Père. Qu'en est-il de nous ? Combien de fois pensons-nous, parlons-nous ou agissons-nous dans le but de plaire au Père ? Quel est notre but ? Est-ce de plaire au Père dans tout ce que nous faisons ou est-ce simplement de vivre dans notre vie de la façon la plus confortable possible ? Nous pouvons dire ou faire ce qui est bien extérieurement, mais quelle est notre motivation ? Est-ce de plaire au Père ? Ou est-ce d'avoir une bonne opinion de nous-mêmes ou de faire bonne impression sur les autres ? Ce sont des questions à se poser si l'on veut savoir ce que signifie être de plus en plus transformé à l'image du Christ. Puisque la sanctification est un processus, nous connaîtrons toujours un conflit intérieur entre la chair, notre nature pécheresse et le Saint-Esprit. Jésus n'a pas dit que ce serait facile. Son combat avant la crucifixion, ça a été difficile pour lui. Votre ancienne nature, avec ses désirs égoïstes, se rebiffe contre l'esprit. Les aspirations de votre être non régénéré se dressent sans cesse contre l'être spirituel. Mais l'esprit, de son côté, s'oppose à la volonté naturelle de l'homme. Ces deux forces combattantes sont constamment en conflit, chacune d'elles luttant pour subjuguer votre volonté. Elles influencent sans cesse vos désirs. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à mettre vos résolutions à exécution et que vous n'êtes pas libre de faire ce que vous aimeriez. Imaginez-vous entrant dans une pièce où la lumière est contrôlée par un variateur. Lorsque vous entrez, la lumière est faible et vous voyez tous les meubles en place. Aucun journal ne traîne, ici ou là. Aucune tasse de café sale sur la table. La pièce semble propre et bien rangée. Mais lorsque vous augmentez la puissance électrique des éclairages, vous commencez à voir la poussière sur les meubles, des taches sur les murs, la peinture qui s'écaille et des traces d'usure sur le tapis. La pièce que vous semblez correcte avec une faible lumière vous paraît soudainement sale et peu attrayante sous l'éclat éblouissant d'une lumière plus vive. Le Saint-Esprit nous éclaire. Et nous, on a juste à faire la pression sur le variateur. Si je veux pas qu'il éclaire trop fort, je le laisse faible. Au moins, ça m'embête pas trop. Je suis pas trop dérangé. Mais vous aurez peu de puissance. Mais si je veux plus de puissance dans l'esprit, Il me faut mettre le variateur à fond, à l'éclairage maximum. Et là, je verrai plus l'œuvre du Saint-Esprit en moi. C'est ce qui se produit dans la vie d'une personne qui recherche la sainteté. C'est le Saint-Esprit qui éclaire et fait toute vérité en chacun de nous. Il faut que vous ayez cette compréhension constante et croissante que même si le péché demeure, il n'est pas le maître. Il y a une différence absolue entre un péché qui survit et un péché qui règne. Entre le régénéré qui est en conflit avec le péché et l'obstiné qui se satisfait du péché. C'est une chose d'avoir le péché vivant en nous, c'en est une autre de vivre dans le péché. Il y a le combat, et celui qui combat, celui qui cherche, marche et s'élève vers le ciel, vers la gloire. On est allé, je l'ai dit d'ailleurs vendredi, on avait fait un séminaire pour CP, c'était à la région parisienne, et c'était Carlos. Je me suis perdu là. Ah oui, Carlos, qui pour piéger, il avait dit à une personne, si je te dis corps, qu'est-ce que vous me répondez ? Certains vont dire corps, âme et esprit. Et il va dire, mais non, vous n'avez pas de bonne connaissance. C'est en vérité, c'est une certaine vérité, mais c'est à l'envers. C'est esprit, âme et corps. Et l'adversaire va utiliser cela. Il va essayer de tromper dans nos pensées. Il est important de connaître sa Bible, de connaître ce que le Seigneur nous invite de savoir. Il est important d'être évangélisé. Parce que sinon, et ben comme lui l'a fait, Carlos Payan, et ben il nous piège. Parce qu'il faut savoir que si on commence par le corps, mais le corps, lui, il a appelé à la poussière. Nous sommes d'abord par l'esprit, conduits par l'esprit. Et c'est l'esprit qui doit nous mener en premier. Et notre âme doit obéir à l'esprit et non à notre corps. Nos désirs doivent être conduits par l'esprit. Alors, cette responsabilité de cette transformation, c'est le Saint-Esprit. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas de responsabilité dans la sanctification, mais que, au bout du compte, c'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme. Il nous appelle à coopérer, à faire la part qu'il nous demande d'accomplir, mais c'est lui qui travaille en profondeur dans notre caractère pour nous changer, pour changer pour la gloire de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 23, 24. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira toutes choses. C'est lui-même qui nous sanctifie entièrement, autrement dit, il mènera le processus jusqu'au bout. Prions chaque jour pour son œuvre de sanctification en nous. Hébreux 13, 21, Dieu notre Père, d'ailleurs, je l'ai écrit sur, vous pouvez l'utiliser, je l'ai mis sur la table du fond, vous pouvez l'utiliser en tant que marque-page, et c'est ce verset. Dieu notre Père, rends-nous capables de faire le bien sous toutes ses formes, que nous accomplissions ta volonté et que tu le réalises toi-même en nous par Jésus-Christ. Ce qui t'est agréable, à toi soit la gloire pour l'éternité. Amen. Et nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Waouh ! L'apôtre Paul, là, était optimiste. Hein ? Parce qu'il savait que l'œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, il voyait une église glorieuse. Est-ce que vous voyez votre église glorieuse ? Moi, je veux. Moi, je désire. Je veux voir cette église, une église lumineuse de la présence de Dieu, par son éclat, par sa beauté. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Le Saint-Esprit est l'agent de la sanctification et qu'il œuvre en nous de cette façon mystérieuse. Il est également vrai qu'il utilise des moyens rationnels et compréhensibles pour nous sanctifier. Certains de ces moyens, tels que l'adversité, l'exhortation et l'encouragement de notre entourage, nous échappent et nous ne pouvons en prendre l'initiative puisqu'ils viennent de l'extérieur de nous-mêmes. D'autres, au contraire, comme l'apprentissage et la mise en pratique des Écritures, ainsi que l'usage fréquent de la prière, sont des moyens pour lesquels il attend que nous prenions l'initiative. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas changer. Si tu ne lis pas, tu ne le connaîtras pas dans les profondeurs, dans le caractère, dans l'immensité de ce qu'il est. C'est l'Évangile qui révèle la plus grande gloire de Dieu, qu'il destine principalement à être déployé devant les hommes pécheurs. Cette gloire même de Dieu qui brillait sur le visage de Christ, c'est l'Évangile qui expose la gloire de Christ. Et c'est par l'Évangile que le Saint-Esprit est glorifié. Et c'est l'Évangile qui sera honoré par l'influence concomitante, accompagnante, du Saint-Esprit. Si l'on me demandait aujourd'hui quelle est la doctrine particulière de l'Évangile, et à proprement parler, la doctrine de la foi, je répondrai brièvement, toute vérité révélée devrait être sérieusement estimée et reçue par la foi. Alors, si pour certains, la lecture de la Bible est difficile, moi, je conseille deux livres, principalement. C'est l'Évangile de Jean avec le Saint-Esprit et Éphésiens. C'est ne serait-ce que si vous lisez ces deux livres et que vous méditez ces deux livres, vous allez grandir. Parce que dans Éphésiens, on y trouve un petit peu toute la pharmacie auquel nous avons besoin pour la plénitude du Saint-Esprit en nous. Et Évangile de Jean, on découvre combien Christ a fait de grandes choses pour nous. Merci pour votre écoute et que l'œuvre du Saint-Esprit vraiment agisse en vous.